des choses en place où tu as participé à une plateforme de ressources, Canopée.
Alors, c'est une plateforme de ressources qui s'appelle CAP École Inclusive, hein, qui a été lancée par le ministère de l'Éducation nationale en 2019 et qui est hébergée par Canopée. Et donc, cette plateforme met à disposition des enseignants et puis des accompagnants des élèves, ce qu'on appelle communément les AESH, des ressources pour mettre en place, pour répondre aux besoins particuliers des élèves. Donc, pour mettre en place des outils de compensation et des adaptations spécifiques.
D'accord. Et puis, il y a aussi les vidéos que tu as faites avec
À tout pour tous. La convention à tout pour tous. Dans le cadre d'un groupe de travail, on a créé effectivement un certain nombre de ressources sur la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés, de façon à mieux informer les jeunes, les familles et les professionnels qui accompagnent ces jeunes. Donc, par exemple, il y a une vidéo pour les jeunes, des jeunes infrabac qui sont en infrabac et qui témoignent à l'attention d'autres jeunes qui sont du même niveau d'études. Et on a fait une autre vidéo qui concerne plus les bacs et post-bacs. Et donc, ces jeunes s'adressent à leurs camarades pour leur faire découvrir l'intérêt de la RQTH, de la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés.
Ok, bah, je te remercie pour ces informations. Ce que je te propose, c'est que maintenant, on attaque le sujet de l'acceptation. Et donc, je te propose cette question. L'acceptation du mot handicap et la reconnaissance administrative permet-elle l'acceptabilité de la compensation ?
Alors, moi, je pense qu'il faut distinguer la reconnaissance administrative et le mot handicap. Le mot handicap, il a beaucoup de mal à passer. Je pense que ce sera toujours le cas. Il faudrait qu'on arrive à trouver une autre formulation.
On a la formulation souvent, maintenant, je vois qu'on parle souvent d'inclusion.
L'inclusion, ce n'est pas que le handicap. L'inclusion, c'est pour tout. Enfin, c'est pas forcément en lien avec le handicap quand on parle d'inclusion. On parle aussi, on peut parler de jeunes ou de catégories qui ont du mal à accéder, puisque l'inclusion, c'est ça, c'est de rendre accessible, d'accéder. C'est pas propre au handicap, en fait, c'est ça que je voulais dire. C'est que l'inclusion, c'est pas propre au handicap. Le mot handicap, il aura toujours du mal à passer. Nous, quand on parle de personnes en situation de handicap, on ne dit pas une personne handicapée, on parle de personnes en situation de handicap, puisqu'on considère que c'est la situation qui les met. C'est pas la personne qui a un problème, c'est l'environnement qui n'est pas adapté. Donc voilà, ça c'est une chose. Donc ce mot-là, il aura du mal à passer. Après, ce qui concerne la reconnaissance administrative, en tout cas pour les jeunes que je côtoie, c'est pas eux qui ont décidé de faire cette démarche. Donc, ça ne va pas favoriser l'acceptation du handicap. Peut-être quand ils sont un peu plus âgés.
Alors, moi, je sais que quand j'ai fait des interviews avec des jeunes, que j'ai accompagnés aussi, leur retour, c'était que, au début, c'était leurs parents qui faisaient les démarches. Mmh. Donc, il n'y avait pas vraiment de problème pour eux. Et à l'âge de 21 ans, c'est là où en fait ils sont confrontés à faire le dossier. Et là, pour eux, c'est problématique, c'est lourd, comme ils disent.
Bah, bien sûr.
Voilà. Et en plus, ça leur donne pas envie. Mais ils le font, comme ils me disent, on le fait juste parce que on a besoin de compensation, on a besoin d'un accompagnement humain, enfin un dispositif qui permette grâce à cette reconnaissance. Et c'est vrai que c'est là où ils font vraiment cette démarche.
C'est-à-dire que, en fait, c'est là, à partir du moment ou s'ils ne font pas les démarches, ils n'ont plus rien, c'est là qu'ils se rendent compte de l'intérêt qu'ils ont d'avoir ces compensations. Donc cette reconnaissance administrative qui va permettre d'avoir accès à ces compensations.
D'accord. Et pour toi, qu'est-ce que c'est la notion du handicap ? Parce que tout le monde a une vision et une notion différente du handicap. Jeanne, ce serait la même.
Bah, pour moi, la notion de handicap, c'est ce que je disais juste un petit peu avant, c'est que ce sont des situations qui créent des difficultés. C'est un environnement. Donc, pour moi, le mot handicap, je ne vais pas lui donner une définition. En revanche, je vais aussitôt l'associer à besoin. Donc, quand je sais et je suis intimement convaincue qu'à partir du moment où on a identifié les besoins d'un jeune, si on a identifié ses besoins, on va réfléchir aux moyens de compensation qui vont être nécessaires. Et là, il n'y a plus de handicap.
D'accord. Et pour la connaissance de ces droits, est-ce que c'est important que les personnes connaissent, alors que ce soit les parents hein, ou le jeune, ou la personne qui est en situation de handicap, connaissent bien ces droits pour pouvoir en tout cas mettre les choses en place d'accompagnement qu'il leur faudrait ?
Alors, je ne sais pas si on peut parler de droits ou plutôt des moyens de compensation qui existent.
D'accord.
Est-ce que je dois répondre à ça ? Parce que les droits, ils sont accompagnés hein, pour qu'on respecte leurs droits. Mais les droits ne suffisent pas. Enfin, les droits, voilà, c'est des textes qui vont définir un certain nombre de droits. Maintenant, quels sont les... Déjà, pour pouvoir... demander ce dont ils ont besoin, ils ont besoin de connaître ce qui est possible. Voilà. Je parlerai plus de quelles sont les possibilités pour pallier à ma situation de handicap. Et ça, ils n'ont pas toujours les éléments.
Alors, ce que moi je vois, c'est que pour préconiser les bonnes compensations, il faut connaître ses besoins. Ce que tu disais tout à l'heure un peu.
Indispensable.
C'est indispensable. J'aimerais que tu nous dises un peu plus, parce que c'est vrai que quand j'ai regardé toutes les compensations, il y a des compensations techniques, des compensations humaines, enfin, il y a pas mal de choses. C'est vrai qu'on est un peu perdu. Donc, si tu peux m'éclairer.
En fait, ça dépend si on parle au sein de l'école hein, ou si on parle dans le monde professionnel, dans le monde de la formation, l'université. En fait, je pense qu'il faut distinguer les deux. Alors, en ce qui concerne l'école, on peut dire qu'il y a, je dirais, deux grandes catégories hein, de compensation. Il y a l'aide humaine et les aides techniques. Après, c'est là où ça peut être un peu compliqué, c'est quels sont les aménagements qu'on va pouvoir mettre en place justement pour pouvoir compenser. Alors, je ne sais pas si j'ai été suffisamment claire.
Non, mais ça va redétailler après.
D'accord.
Une petite question qui retourne sur la compensation.
Parce que je pense que ce qui est important, c'est de donner cette définition de la compensation. Quel est le rôle de la compensation ? Ça va être de faire en sorte que la personne qui est empêchée ne soit plus empêchée. Alors, je ne parle pas de prestations de compensation où là, il y a des éléments financiers. Je vais plus parler de voilà, j'ai un jeune qui est en difficulté pour écrire ou lire. Si il a une compensation qui est mise en place, il est plus du tout en situation de handicap, puisque la difficulté elle est effacée en quelque sorte.
Elle est réduite ou elle est effacée quoi ?
Elle est réduite ou elle est effacée.
D'accord. Et on a dit que dans la catégorisation des compensations, on va dire que c'est plutôt humaine et l'aide technique. L'aide technique, c'est tout ce qui peut être matériel, ça peut être quoi ? Parce que c'est très très large en niveau aide technique.
Ah bah les aides techniques, ça va du fauteuil adapté au bureau adapté à un poste de travail qui a été étudié pour que le jeune soit, enfin que la personne soit dans les bonnes conditions, que ça soit en classe ou au travail. Ça peut être un poste informatique avec un clavier spécifique, un écran, un double écran. Enfin, il y a toute cette partie qui est matérielle, mais qui va permettre à la personne de travailler en totale autonomie.
D'accord. Et quand, par exemple, je vois, par exemple, pour des 10, ils ont le tiers-temps, où on a des aménagements d'horaire.
Ça, c'est pour les examens.
C'est plutôt pour les examens.
Les aménagements pour les examens.
Pour les examens. Et en classe, par exemple, s'ils peuvent ne pas tenir une journée 8 heures d'affilée, c'est plutôt quel type d'aménagement ? Est-ce que...
Là, on parlera plus, j'allais dire, d'aménagement du cursus, entre guillemets.
D'accord.
Du cursus. On n'est pas sur de l'aménagement matériel. Donc, le fait d'avoir une difficulté, pour tenir sur une journée, on peut très bien... Alors, ça se fait à l'université, ça peut se faire au lycée aussi, hein, mais il faut mettre en place toute une procédure pour que le jeune puisse faire sa formation en 2 ans au lieu d'une année, par exemple, avec des temps de présence réduits. Ça, c'est un aménagement de cursus. Ça peut être un aménagement d'horaire. C'est exactement la même chose en entreprise. Hein. Il peut y avoir des aménagements pour que la personne soit fasse des demi-journées ou des journées qui ne soient pas trop longues. Voilà, il y a ce type d'aménagement qui n'est effectivement pas technique. Après, il y a les aménagements, ce qu'on appelle les aménagements pédagogiques. Et dans les aménagements pédagogiques, il existe plein de choses. Mais ça peut être uniquement les outils qui sont utilisés. Donc, ça peut être un palier, proposer un aménagement technique avec des supports pédagogiques qui sont adaptés.
D'accord.
Il peut y avoir des mixtes, hein, des mélanges hein, d'aide humaine, d'aide matérielle, d'aménagement pédagogique. Pour donner plus de temps, enfin voilà, en classe on peut mixer les différentes aides qui sont possibles.
D'accord. Et il y a aussi, ce que j'ai lu, c'est souvent aussi on a alors ces histoires de PAI, PPRE.
C'est des plans, on appelle ça des plans d'accompagnement.
D'accord.
Donc il existe plusieurs types de plans d'accompagnement, donc les PPRE. Ce sont des plans pédagogiques pour la réussite éducative. Et en fait, alors de mémoire, hein, je sais plus précisément ça, mais c'est pour les jeunes qui rencontrent des difficultés.
D'accord.
Ça c'est un premier niveau de d'accompagnement, j'allais dire.
Donc dès qu'ils rencontrent une difficulté, par exemple d'apprentissage ou dans leur scolarité de vivre.
Il faut qu'elle soit, voilà, il faut que la difficulté, elle soit, voilà, elle soit perçue comme quelque chose qui perdure. Enfin, parce qu'un enfant, en classe, il n'est pas toujours très bon. On a des moments où on est moins bien que d'autres. Mais quand la difficulté est persistante, effectivement, il y a un plan, donc le fameux PPRE qui peut être mis en place. Et puis par la suite, si ce n'est pas suffisant, il peut y avoir ce qu'on appelle le PAP, le plan d'accompagnement alors pédagogique. Alors je confonds des fois les.
Ouais.
Le PAP, plan d'accompagnement personnalisé normalement, qui lui est réservé vraiment pour les jeunes qui ont des troubles des apprentissages. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le PAP. Tous les aménagements qui sont possibles et toutes les compensations qui sont possibles, hein, les aides humaines, matérielles, etc., c'est un système de cases à cocher qui permet à chacun de savoir quelles sont les possibilités d'aménagement qui vont qui vont être nécessaires pour tel ou tel profil d'élève. Ça va être en fonction de ses besoins. On est toujours sur la notion de besoin. C'est-à-dire qu'on va constater des difficultés, on va essayer d'identifier quels sont les besoins du jeune, et à partir du moment où on a identifié le besoin, là, on va pouvoir réfléchir à des aménagements possibles.
D'accord. Et alors, quand ça se met en place, est-ce que c'est comme avec la MTPH, où il y a une commission
Pas pour les PAP. Oui. Pour les plans d'accompagnement personnalisé et les PPRE, on est sur quelque chose qui est hors de la MDPH. Il n'y a pas de handicap. On est dans la difficulté scolaire ou les troubles des apprentissages.
Oui, mais je voulais dire, est-ce que c'est un peu le même process d'en dire, on réunit une équipe pour mettre des choses en place et de convenir ce qui est au mieux pour la...
L'équipe, oui. Alors après, c'est vrai que les procédures sont un peu différentes, puisqu'on passe par le médecin scolaire, on ne passe pas par la MDPH. Il faut que le jeune, pour un PAP, il faut que le jeune ait un suivi par un spécialiste à l'extérieur, qui ait des bilans. Et effectivement, l'équipe va se réunir et avec le médecin, et elle va pouvoir sélectionner les aménagements qui sont nécessaires. Et chaque année, c'est revu, puisque les besoins évoluent aussi en fonction du niveau de l'élève, de la classe qu'il suit, de son niveau. Voilà, donc chaque année, c'est revu. Et donc, oui, c'est une réflexion, collective.
D'accord. Super, ça m'éclaire sur beaucoup de choses. Donc, les différentes prises en charge, donc on a soit une prise en charge dans la compensation quand on est adulte, en tout cas avec la MDPH, par cette reconnaissance en tout cas administrative pour après l'unité 3 dans la compensation. Quand c'est des jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage, c'est plutôt avec la scolarité, si je résume bien. Non.
Bah, en fait, c'est plus complexe que ça. En fait, un jeune, il y a un jeune qui va être en difficulté. Dans un premier temps, les enseignants, ils vont réfléchir à mettre en place un PPRE. Sauf si le jeune est déjà suivi par un spécialiste. Là, on est tout de suite soit sur un PAP, soit sur un PPS, qui est le projet personnalisé de scolarisation. Quand le PAP est mis en place, à un moment donné, si ce n'est pas suffisant, soit effectivement, ça va régler les problèmes et le jeune, ça va se passer beaucoup mieux pour lui. Il n'y a pas besoin d'aller au-delà. Soit ce n'est pas suffisant, il y a besoin de compensation, ça peut être une aide humaine, ça peut être une aide technique. Puisque quand on a un PAP, alors on peut utiliser son ordinateur personnel au lycée, mais il n'y a pas de financement, il n'y a pas de compensation par la MDPH, il n'y a pas de reconnaissance du handicap, il n'y a pas de handicap. Et dans les troubles des apprentissages, il y en a certains pour lesquels le PAP va suffire. Et il y en a d'autres, les troubles sont tellement importants, et puis parfois ils cumulent plusieurs troubles. Hein. On peut être et dyslexique et dyspraxique, et en même temps TDA, H, un certain nombre, voilà. Donc là, c'est vrai que pour cela, en général, le PPS, le plan personnalisé de scolarisation, donc qui est une reconnaissance administrative, hein, et qui donne droit à compensation, donc avoir un dossier à la MDPH, il se fait assez tôt dans la scolarité.
Et ça peut aller jusqu'à quel âge, alors
Alors le PPS, il s'arrêtera à partir du moment où le jeune rentre à l'université ou dans une grande école.
D'accord.
Mais attention, certains élèves qui font des études supérieures, comme le BTS, le DCG, qui est un diplôme de comptabilité, comme ça se passe dans nos lycées, ils continuent à bénéficier de PPS. Ils ont un statut d'étudiant, mais ils continuent à bénéficier d'un PPS.
Donc en fait, ça voudrait dire que ça dépend du lieu où on est dans sa scolarité.
C'est pas du lieu.
Enfin, du lycée. Enfin, je veux dire, si on est dans un lycée et qu'on fait un BTS, on est encore pris en charge.
Si on fait un BTS, parce qu'on peut être dans un lycée, faire une formation en alternance, et là, on n'a pas de PPS.
D'accord.
C'est pour ça qu'il faut faire très attention.
Ça complique les choses. Parce que c'est vrai que quand je regarde souvent les réseaux sociaux, sur des groupes de Facebook ou autres, on voit beaucoup de parents qui sont un peu perdus, qui demandent de l'aide et parce qu'ils comprennent plus pourquoi leur enfant est pris en charge, pas pris en charge.
Et oui.
Et c'est vrai que c'est compliqué. Et c'est pour ça que je me permets de te reposer toutes ces questions parce que pour moi c'est hyper important de comprendre.
Bien sûr.
Et de répondre en même temps à toutes ces personnes.
Ben justement, alors là, moi, j'ai un exemple très récent d'un jeune dont je te parlais tout à l'heure, qui rentre dans une école. Et le message que j'ai reçu de la famille, c'est « Mon fils a besoin d'aménagement pour continuer ses études. Est-ce qu'il faut que je fasse une demande à la MDPH ?» Voilà. Et c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, les familles, pour certains, ne sont pas informées. Et là, moi, ça fait partie de ma mission, justement, d'informer les familles. Qu'il faut prendre en contact quand on va dans une grande école ou à l'université, on se met en relation avec le référent handicap qui va orienter vers la médecine universitaire pour qu'un plan d'accompagnement soit mis en place et on n'est plus sur le PPS, on n'est plus sur la MDPH. En revanche, ce qui peut poser problème et qui peut induire en erreur, enfin créer de la confusion, c'est que tout ce qui concerne le pédagogique, tout ce qui concerne l'école, enfin la formation, ça va relever, quand on est à l'université ou dans une grande école, ça relève de la responsabilité de l'université. Puisque chaque organisme de formation, les universités, les écoles, doivent avoir un référent handicap. D'accord ? Si le jeune, si je prends l'exemple d'un jeune qui a besoin d'une compensation humaine, mais en dehors de l'école. C'est-à-dire qu'il y a la compensation humaine à l'école, à l'université. Elle va relever de la responsabilité de l'université qui va devoir mettre en place les moyens de compensation. C'est-à-dire, par exemple, attribuer un preneur de notes. Mais tout ce qui concerne la vie quotidienne, c'est-à-dire le jeune, s'il a besoin d'être aidé pour manger, s'il est dans un logement adapté et qu'il a besoin d'une aide humaine, là, on est sur des mesures de compensation qui relèvent de la MDPH.
D'accord. Donc, en fait, on peut cumuler en fait, les
oui.
deux.
Ah bah, c'est deux choses différentes.
C'est deux choses différentes. Donc, ouais. Ça se cumule, en tout cas. C'est
oui.
pas l'un ou l'autre.
Non.
C'est vraiment...
tout ce qui n'est pas pédagogique. Alors, attention, tout ce qui n'est pas pédagogique.
D'accord. Tout ce qui n'est pas pédagogique. Et donc, quand un parent, par exemple, s'il se sent perdu, ou un jeune qui entend une information, mais qui n'a pas toute l'information, il peut aller voir directement donc, quelqu'un comme toi dans le rectorat pour être conseillé.
Oui, mais alors après, ce qui est compliqué, c'est que quelqu'un qui a une mission comme la mienne, il n'y en a pas partout.
D'accord.
Je suis pas... Puisque c'est une mission, ce n'est pas un poste.
Donc
ça, c'est de la volonté. Enfin, c'est quelque chose qui existe au sein du rectorat de Versailles, mais qui n'existe pas, qui ne va pas exister dans d'autres rectorats. C'est pas partout.
Donc si alors une personne était dans un autre rectorat, comment ça se passerait? Qu'est-ce qu'elle devrait faire pour mettre en place ces compensations?
Bah, quelqu'un, alors là, on parle même pas de rectorat, hein. C'est une histoire, quelque part, parce que un jeune, par exemple, qui fait des études supérieures, il dépend plus du rectorat, il dépend plus du ministère de l'Éducation nationale. On est là sur le ministère de l'Enseignement supérieur. Alors, qui est-ce qui peut le renseigner? Il y a une plateforme qui existe, sur laquelle il y a vraiment de nombreuses informations. Et que je conseille, moi, à toute personne qui a besoin d'avoir des informations, ça s'appelle Mon Parcours Handicap.
D'accord, ok.
Et c'est une plateforme sur laquelle il y a plusieurs thématiques. Une thématique sur les droits, et donc les aides qui sont possibles. Il y a toute une thématique qui est relativement récente, hein, puisqu'elle date de fin 2021, sur la scolarité, l'enseignement supérieur, et il y a aussi une partie sur la formation et l'insertion professionnelle. Donc on trouve plein d'informations, et dans la partie ma scolarité, ben, on a vraiment toute la scolarité, et enseignement supérieur, c'est pour les futurs étudiants.
D'accord. Donc c'est vrai que quand les gens sont perdus, ben, il faut vraiment qu'ils vont sur cette plateforme. En fait.
Ben, ils ont intérêt, parce qu'elle a vraiment été faite à destination des familles, des personnes qui sont concernées, des aidants et des professionnels. Elle est très riche, cette plateforme. Et c'est vrai qu'il y a peu de gens, peut-être que peu de gens la connaissent.
Bah, nous, on la mettra en tout cas...
Mon parcours handicap.
Mon parcours handicap. Mmh. Et je le mettrai sur les podcasts et tout, comme ça, voilà, ce sera fait. Je pense que sur la... ah oui, je vous posais la question de la catégorisation de la compensation. Je discute des fois avec des jeunes et ils me disent qu'ils n'aiment pas cette catégorisation de compensation parce qu'ils disent des fois des, même des 10... peuvent avoir des niveaux et des variations différentes d'adaptation. Que penses-tu, toi, de cette vision, de cette catégorisation où, par exemple, quand on va... Par exemple, j'ai une jeune qui m'avait expliqué que quand elle a été à l'université, on lui a dit, bon, bah, c'est un tiers temps que tu auras, et puis une police adaptée. Voilà. Et alors que ce n'était pas ses besoins, ce n'est pas ce qui l'aurait aidé le plus. Elle aurait préféré peut-être quelqu'un preneur de notes ou des choses comme ça. Et elle n'a pas eu ça en fait. Donc elle s'est dit, j'ai le droit qu'à ça qu'on me propose et je ne peux pas demander plus.
Ben, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand, par exemple, moi, quand j'accompagne les jeunes, quand j'accompagne des jeunes, je recommande vraiment aux familles, quand ils ont rendez-vous avec la médecine universitaire, de venir avec les aménagements qu'ils ont eus aux examens. Le GVASCO ou le PPS, ils en ont un, puisque parfois il y a le GVASCO, mais le PPS, il n'est pas édité, il n'existe pas concrètement. Mais voilà, je leur propose de faire ça. S'ils ont un PAP, s'ils ne sont pas en situation de handicap et qu'ils ont donc un PAP, je recommande de prendre le PAP, parce que ça permet déjà au médecin qui va étudier le dossier de voir qu'est-ce qui avait été mis en place. Et il va pouvoir préconiser la même chose au minimum.
D'accord.
Si la personne, elle y va simplement avec un document qui dit qu'il est 10, effectivement, on ne va pas lui proposer un preneur de notes, puisque le preneur de notes, l'université le paye.
D'accord.
Donc, il faut que ça soit utile.
Ok. Donc, en fait, le preneur de notes, il est même financé en fait, par l'université, quoi.
Oui. C'est, en général, c'est un étudiant qui prend des notes pour un autre étudiant.
Et quand c'est un jeune qui est qui est jusqu'au lycée, enfin, qui ne dépend pas de l'enseignement supérieur, voilà.
Là, c'est une notification de la MDPH. Hein.
Là, c'est une notification de la MDPH.
Oui.
Okay, d'accord.
Il faut qu'il y ait une notification de la MDPH. Donc okay. Là, il y a le GVASCO, etc. Enfin...
Toutes ces choses qui se mettent en place.
Tout ce qui s'est mis en place au fur et à mesure du temps. Et ça peut être, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué, notamment cette transition entre le lycée et le supérieur, parce que on arrive dans une nouvelle structure, il n'y a plus d'enseignants référents, les personnes ne vous connaissent pas, et c'est pour ça qu'il faut y aller avec tous les éléments.
Bien venir avec tout son dossier de parcours d'accompagnement qu'on a eu depuis le début. Quoi,
tous les aménagements qu'on a pu avoir, les derniers au moins, en tout cas.
Voilà. Ok. On va passer maintenant à la partie sur l'approche de l'accessibilité. Donc la compensation, entre parenthèses, elle n'est pas toujours raisonnée. Moi, on parle souvent de l'accessibilité raisonnable. Je ne sais pas si ça te parle, l'accessibilité raisonnable. Alors, j'ai eu un professeur qui m'expliquait que l'accessibilité raisonnable, c'est qu'on ne peut pas tout avoir, mais c'est d'avoir au moins un minimum. Voilà. Qu'en penses-tu ?
Moi, je suis... Enfin... Pour moi, c'est vraiment, mais je mets ça vraiment, comment dire, comme condition essentielle, parce que ça ne suffit pas de connaître le trouble du jeune, puisque on l'a dit hein, tout à l'heure, hein, quelqu'un qui a un trouble 10, il n'aura pas besoin des mêmes aménagements que un autre qui a les mêmes troubles 10, puisqu'il peut y avoir des conséquences sur les apprentissages qui sont très différents. Donc, mettre le minimum, pour celui qui n'a pas besoin de beaucoup de compensation, le minimum, ça va aller. Hein. Mais pour celui qui en a besoin de beaucoup de compensation, ça n'ira pas. Donc, par exemple, je vais prendre un truc tout bête. Hein. On va mettre le tiers-temps à quelqu'un. Et puis, on va lui agrandir en format A3 ses documents. Bah, format A3, ça peut poser problème déjà, hein. Le tiers-temps, s'il s'en sort pas, ça va lui servir à quoi? Donc c'est pas. Mais ça, il y a quelques années, on fonctionnait de cette façon-là. C'était systématique. Allez, on agrandit et on met en place un tiers-temps. Le tiers-temps, il n'est pas toujours nécessaire. Il n'est pas toujours, comment dire, indispensable. En revanche, on ne peut pas savoir à l'avance. Donc, il faut le tester. C'est-à-dire que le jeune, le fait de savoir qu'il a la possibilité d'avoir un petit temps supplémentaire pour terminer un devoir ou en situation d'examen, même si c'est 5 minutes, ces 5 minutes, il les a. Donc, moi, j'étais plutôt pour qu'on le donne systématiquement et je disais allez, aux élèves de gérer leur temps, mais au moins ils savaient qu'ils avaient ce temps supplémentaire qui leur permettait de recontrôler à la fin, en tout cas de ne pas stresser, de finir de façon très calme et d'entamer une autre épreuve. Après, ce qu'il faut qu'ils apprennent à faire, c'est à gérer ce temps.
Moi, je vois que là, enfin, il y a un avantage, comme tu dis, sur le tiers-temps, mais c'est surtout aux jeunes de connaître en tout cas son besoin de compensation, et il peut l'utiliser s'il en a besoin, en fait.
Oui, mais le souci, c'est que quand ils sont en classe, qu'on leur donne un petit temps supplémentaire, c'est pas la même chose que pendant les examens. En fait, pendant les examens, quand il y a des épreuves de 4 heures, le temps supplémentaire, il est important et ils doivent apprendre à l'utiliser. Ça, c'est pas inné. Enfin, voilà. Donc, c'est pas évident de les préparer à l'utiliser correctement ce temps.
Donc, ce serait bien qu'on apprenne à ces jeunes en fait à utiliser leur tiers-temps en fait.
Oui, mais sauf que voilà, il n'y a qu'au moment où ils passent des épreuves blanches, entre guillemets, quand ils passent par exemple le bac blanc ou le brevet blanc, si on les met en situation et qu'on leur met à disposition un tiers-temps ou une assistante, une aide humaine, hein. Rien que l'aide humaine, si on n'a pas l'habitude de l'utiliser, c'est une catastrophe pour l'examen.
Oui, donc ça peut devenir plus pénalisant
C'est ça.
que,
Bien
enfin,
sûr.
qu'un avantage, quoi.
Oui, ça peut être pénalisant.
Et alors moi j'avais rencontré une référente handicap dans une école privée. Et elle a ce statut-là puisqu'elle a fait une formation pendant une journée et devient référente handicap de l'école. Ce qu'elle m'explique. Et donc, elle s'occupe des jeunes qui sont en situation de handicap. Et dans cette situation-là, elle se retrouve confrontée à une maman qui va lui dire « Mon fils a le droit à ça, mon fils a le droit à ça, mon fils a le droit à ça, mon fils... » Et son école n'a pas ces éléments-là et ne peut pas mettre tout ça en place. Et en même temps, elle se rend compte qu'elle n'a même pas toutes ses connaissances, en fait, qu'elle devrait avoir. Et c'est là où ça m'a amené la réflexion entre la compensation idéal et la compensation qu'on appelle raisonnable, où elle essaye de faire au mieux, mais elle a cette pression en tout cas familiale de pouvoir bah, répondre aux parents, en tout cas de ce jeune qui l'a mis dans cette école privée.
Alors, déjà, attention, hein, je vais redire la même chose que tout à l'heure. Hein, les parents, ils ne peuvent pas réclamer telle ou telle chose. Par contre, ce qu'ils peuvent réclamer, c'est dire, voilà, dans l'établissement précédent, mon fils ou ma fille avait tels aménagements et on voudrait qu'il y ait la même chose. Il y a quand même des procédures. Quand on est scolarisé, il y a des ESS, des équipes de suivi de scolarisation. Il y a un enseignant référent de scolarisation, ce qu'on appelle les ERSH, qui sont en lien avec les MDPH, les familles, les équipes pédagogiques, pour compléter le GEVASCO, cocher, pour identifier les besoins et proposer des aménagements et des compensations.
ça se fait pas comme ça, c'est pas la famille qui peut décider. Donc déjà ça, c'est une chose. Après, j'allais dire, c'est pendant la scolarité de l'enfant, quand on voit les difficultés qu'il rencontre, qu'on peut faire remonter quels sont ses besoins. Quand il est en apprentissage. Donc il faut avoir la possibilité déjà d'identifier ses difficultés. D'accord ? Et pour imaginer quels sont les moyens, les compensations qui sont possibles. Et c'est là où on a parlé tout à l'heure de la plateforme Cap École Inclusive. Cette plateforme, elle propose aux enseignants une fiche d'analyse des besoins. L'enseignant, quand il répond aux questions, puisqu'il peut faire un questionnaire par élève, donc on est vraiment sur l'identification de besoins, des besoins particuliers d'un jeune, il va avoir une proposition, des propositions d'aménagement et d'outils divers de compensation liés aux troubles qui ont été constatés en fait en classe. Après, j'allais dire, moi, de mon expérience professionnelle, sincèrement, j'expérimentais, en fait, je proposais des choses différentes à l'élève. Et au moment de la demande, ou au moment de l'ESS, je disais, voilà, ce qui serait idéalement, il faudrait telle chose, telle chose, telle chose. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des spécialistes, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des orthophonistes, qui eux sont en mesure, ce sont des spécialistes, ils sont en mesure de proposer des outils de compensation et de former les jeunes à ces outils de compensation.
Tout à fait. Alors je sais, moi j'avais discuté avec une personne qui était orthophoniste, et c'est vrai que je lui parlais des compensations numériques, et elle m'a sorti en me disant comme ça, oui, mais nous on ne fait pas les compensations numériques, on est dans l'écrit. Et je lui ai dit, mais ce serait bien d'être les deux, parce que pour moi c'est
les ergothérapeutes plutôt qui font ça pour la compensation matérielle et numérique. En fait, c'est pas tout à fait le... Enfin, moi, d'après ce que j'ai pu constater, c'est vrai que l'orthophoniste va être là pour faire la rééducation par rapport à des troubles divers et variés des fonctions cognitives. En revanche, là où c'est intéressant, c'est que quand il y a besoin de mettre en place des aménagements matériels, donc quand je dis matériel, pour moi, le numérique, il fait partie aussi du matériel, ce sont les ergothérapeutes ou les psychomotriciens qui travaillent avec les jeunes pour s'approprier ces outils. Parce que clairement, si on met un ordinateur dans les mains d'un jeune sans rendre son poste accessible,
alors moi j'ai une jeune qu'on
ça va pas.
Alors j'ai une jeune qu'on avait mis, elle a rencontré quelqu'un qui était spécialisé, qui lui a mis un logiciel Antidote, une formation de même pas toute une journée, enfin je crois, et en même temps on lui avait mis Dragon. Et en fin de compte, ce jeune ne l'utilise pas. Parce que ça ne répondait pas, c'était trop complexe. Et c'est vrai que quand moi j'ai fait des modules avec elle, où je lui ai dit, ton ordinateur peut te parler, c'était tellement pour moi logique, puisque la technologie a quand même avancé sur pas mal de choses, je me suis dit, on est en train de dépenser un coût financier pour une prestation, alors qu'on fait tout pour prêter un ordinateur au jeune, ou lui donner un ordinateur, en tout cas dans ce cadre-là. Et en fait, il y a déjà cette accessibilité-là, puisque maintenant, de plus en plus de technologies mettent en avant cette accessibilité plutôt généralisée.
Alors, cette compensation, elle a quand même eu, cette jeune, je pense savoir à qui tu fais référence, elle a eu quand même la compensation matérielle, c'est-à-dire qu'elle a eu le financement de son ordinateur. Et après, effectivement, il a fallu financer des logiciels. La question qui, à mon avis, qu'il faut se poser, c'est pas normal qu'elle ait pas pu s'en servir parce qu'elle a reçu un temps de formation. Peut-être que ce temps de formation est insuffisant. Peut-être aussi que ce qu'on lui a proposé demandait trop de formation. Ça, c'est possible aussi. Et qu'effectivement, il y a des aménagements qui sont peut-être plus simples à mettre en place. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, ça demande une prise en main.
Oui, de toute façon, il faut une
formation. Et si le temps de formation n'est pas suffisant, moi, j'ai pu le constater à l'école, hein, parce que je ne comprenais pas pourquoi mes élèves à qui on avait joyait dans le GVASCO on préconisait tel logiciel de retour vocal, hein, ou de reconnaissance vocale, et qu'ils n'utilisaient pas. Et en fait, quand je leur posais la question, ils m'ont dit, mais madame, on n'a pas été assez formés dessus, tout simplement. Donc, il y a un manque de temps, peut-être, pour se former. Vous donnez un ordinateur à un enfant qui ne peut pas écrire, hein, parce qu'il est dyspraxique, hein, il a une dysgraphie qui va le fatiguer énormément. Si on ne lui met pas une aide humaine pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il maîtrise l'ordinateur, mais ne serait-ce que le clavier, hein, parce qu'après, il peut y avoir quelques aménagements... voilà, mettre des touches en surbrillance, des raccourcis, des petites choses comme ça. Mais s'il ne se les approprie pas, s'il n'est pas formé, l'ordinateur va être un gros problème pour lui. Et il le mettra de côté. Et plus ils sont formés tôt, et ils l'emmènent dans leur cartable comme n'importe quel outil par la suite.
Donc ça m'amène à la question où en fait la formation est extrêmement importante. Et que le jeune soit aussi réceptif à une pédagogie qui lui convienne.
Mais si on ne lui montre pas que ça va l'aider, si on ne lui montre pas que ça va vraiment le soulager, il faut qu'on lui prouve que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut le penser avec lui. En fait, on ne peut pas plaquer comme ça. Alors, il y a des choses qui sont très faciles, effectivement. On va dire, bon, on va lui donner du temps supplémentaire. Ça, c'est facile à mettre en place, il l'utilisera ou il l'utilisera pas, mais au moins, il a cette possibilité. Il n'a pas besoin d'être formé pour ça. Par contre, on va lui apprendre à mieux utiliser son temps pour qu'effectivement, il puisse terminer dans les temps, même avec le temps supplémentaire. Mais quand il s'agit d'un logiciel qu'il faut s'approprier, il faut qu'on puisse l'accompagner en classe, qu'il puisse à un moment donné le maîtriser, même s'il a été formé par un professionnel, mais pouvoir l'utiliser en autonomie, et puis faire des retours quelque part pour dire bah, ça marche bien avec lui, mais telle chose ça fonctionne pas, là il faut, et ça demande du temps, ça demande d'être près de l'élève et de l'observer. Et de l'observer longuement. Franchement, moi, je l'ai fait parce que dans mes cours, j'avais des plages de 4 heures et que je pouvais décider que voilà, pendant tant de séances, je suivais tel élève, je mettais telle compensation en place pour lui. Et là, il se l'approprie tout de suite à partir du moment où il en comprend l'intérêt. En revanche, si au sein de l'école, il n'y a pas cette possibilité de l'accompagner, puisque forcément, il faut que ce soit l'enseignant qui l'accompagne. Et si l'enseignant, il n'est pas formé.
Bah, tu viens à la question suivante.
Et voilà.
Ou la formation, puisque moi, dans le cadre de Full Inclusion, on a pris une jeune et on l'a formée, puis on en a une autre, c'était plus sur son organisation. Qui était complètement différente, c'était deux façons de travailler différentes, mais je me suis rendu compte qu'en fait, elles n'ont pas été formées aussi bien à s'approprier l'outil, et aussi bien les personnes qui l'ont formée, elles avaient certains éléments, et puis quand il y a des choses qui devenaient plus difficiles, parce qu'elles évoluent au niveau de l'école, donc le niveau ne va plus être le même, les besoins ne vont plus être les mêmes, et bien là, elles se retrouvent où elles avaient du mal à se l'approprier. Il n'y avait pas de professeur ou de personne à part les accompagnements qu'elle avait déjà eu antérieurement qui pouvaient l'aider. C'était ses petites béquilles, comme elle dit souvent.
Mais oui, mais moi je trouve que c'est très compliqué pour un enseignant qui ne connaît pas un jeune et qui n'est pas spécialisé, qui ne connaît pas l'impact des troubles sur les apprentissages. Personnellement, quand j'interviens, par exemple, puisque je suis aussi formatrice, hein, quand j'interviens dans des lycées ou dans des collèges, la première chose que je fais, c'est que je mets mes stagiaires en situation de handicap pour qu'ils se rendent compte des impacts d'un trouble. Je parle notamment hein, pour les troubles 10, hein, pour vraiment qu'ils se rendent compte de ce que ça peut créer déjà comme difficulté. Et à partir du moment où ils comprennent quelles sont les conséquences de ces troubles sur les apprentissages, là, il faut qu'on leur donne des billes, et la plateforme, par exemple, Cap École Inclusive, elle donne hein, ces éléments, qu'on leur donne des informations sur le trouble, déjà, sur les conséquences sur les apprentissages, et ensuite, des outils, comment je peux faire. Et après, c'est l'imagination, en fait. C'est en fonction de ce qu'on développe comme compétences quand on accompagne des jeunes en situation qui ont des troubles des apprentissages, en situation de handicap ou pas, hein, peu importe, hein, mais quand on a une connaissance des conséquences de ces troubles, ben, y a certaines choses qu'on ne fait plus.
Ça peut arriver des fois qu'il y a des professeurs qui n'ont pas envie d'en fait d'apprendre parce que pour eux c'est un peu trop lourd et qu'ils se disent bah, ça me fait une surcharge de travail incroyable. Parce que c'est l'image qu'on peut peut-être envoyer hein, avec déjà avec le mot handicap est lourd, donc en règle générale, c'est peut-être l'image et l'idée qu'ils se font, et puis des fois il y a des choses qui peuvent être assez simples.
Non, mais comme je disais, c'est pas forcément, on n'est pas forcément dans le handicap quand on parle de troubles des apprentissages. Si on parle des troubles 10, encore une fois, il y en a toujours dans toutes les classes. Et quand on intervient, par exemple, dans des formations sur ces troubles-là, hein, puisque c'est ceux qui demandent le plus souvent sur lesquels on est sollicité, parce que un élève il peut être en situation de handicap pour un trouble moteur, un trouble visuel, puis en même temps, à côté, il a quand même des troubles des apprentissages. Il peut être à haut potentiel et avoir des troubles des apprentissages. Enfin, voilà. Donc, ce qui est compliqué, en fait, c'est plus, comment dire, je ne me rappelle plus tout à fait la question.
Sur la motivation, en tout cas, des professeurs.
Ah oui, oui, c'est ça.
Voilà.
Oui. Bon, déjà, il y a, de toute façon, inévitablement, il y a cette... Ils sont forcément confrontés à des enfants qui ont, ou à des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Après, moi je dirais que la majorité. Alors, c'est pas pour défendre, mais moi j'ai toujours été très très surprise par cette découverte des conséquences des apprentissages que n'imaginaient pas les enseignants. Ils ne se rendent pas compte s'ils ne sont pas formés, ils ne se rendent pas compte de à quel point ça peut être un cercle vicieux, hein, une boucle. Enfin, on peut être dans la démotivation très vite, hein,
la perte de confiance,
etc. Et quand ils ont conscience de ça, en général, je vais pas parler pour tous les enseignants, mais il y a une vraie volonté d'apprendre, hein, et on se sent mal quand on est en souffrance, quand on n'arrive pas à faire passer des savoirs et qu'on ne sait pas comment faire. Donc il y a une volonté de se former, sauf que c'est pas si simple que ça de se former, puisque ça demande de l'investissement, ça demande parfois d'être absent devant élèves, et ça c'est si on a une journée ou deux de formation ou une semaine de formation, ça peut être compliqué de s'absenter de ces cours. Enfin, c'est pas simple de se former. Après, est-ce que quelqu'un qui est réellement motivé, il va suivre des MOOC, des formations qui sont accessibles gratuitement pendant les vacances.
Il est motivé pendant les vacances.
Non, mais bon, voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a plein de formations qui sont proposées, mais elles sont pas suffisantes, en fait.
Donc il faudrait faire évoluer les formations pour qu'ils ont plus de temps, en tout cas. Ce qu'on pourrait dire, c'est pour qu'ils ont plus de temps pour se former, quoi.
Moi, je dirais qu'il faut qu'ils se forment dès la... Non, il ne faut pas exagérer quand même. Non, mais que les enseignants, ils se forment dès qu'ils sont en formation pour devenir enseignants.
Ouais. Oui, voilà, mais je veux dire, quand ils prennent des jeunes qui les prennent dès la maternelle, ça veut dire si, ils vont pas avoir des enfants qui sont 10 dès la maternelle, en fait.
Ça se verra pas forcément tout de suite à la maternelle, le trouble 10, mais ça se verra.
On pourra avoir déjà des. Parce qu'il y avait, tu te rappelles, on a parlé du PAP et tout ça, PPAI.
Le PAI qui est le plan d'accueil individualisé.
Voilà. Et c'est vrai que même en dernière session de maternelle, on voit souvent des enfants qui restent en classe le midi avec un professeur, des petits groupes, pour essayer de travailler leurs petites difficultés d'apprentissage. Et ça peut en tout cas indiquer et suivre en tout cas s'il y a une problématique par la suite. Quand
bien
ils
sûr. Plus ils sont détectés tôt et. Et mieux, parce qu'ils vont avoir de la rééducation, et la rééducation, même si elle peut durer jusqu'à l'adolescence, parce que parfois à l'adolescence ils disent bah, j'en ai marre, puis ça, ils reprennent un peu plus tard, elle va être utile, ils vont progresser, ils vont énormément progresser avec la rééducation.
D'accord. Je vais répondre à toutes les questions. Juste la notion du coût. Parce qu'on pense que la compensation peut ou la formation peut être un coût financier, soit supporté par les familles, soit supporté par autres. Quand j'ai fait le podcast hier, j'ai une jeune fille qui m'a dit « Je n'ai pas continué l'orthophoniste parce que le coût financier était important. » Elle devait aller chez l'orthophoniste. Sauf que ils sont 4 dans la famille à aller chez l'orthophoniste, qu'il fallait avancer les frais, plus les déplacements, pour l'organisation de la maman. Et donc, à un moment, bah, cette jeune, elle n'a plus été chez l'orthophoniste, en fait. Et des fois, ça peut arriver qu'en fait, le coût financier, même si on pense que c'est pris en charge par différentes...
Ça dépend.
Il y a des situations,
des prestations,
on a des problématiques comme ça qui viennent. Qu'est-ce que tu en penses
Ben moi, je dirais que déjà, avant le coût financier, ce qui peut être compliqué, c'est d'avoir une place.
Oui, la place aussi est importante.
C'est de trouver un orthophoniste qui va pouvoir déjà vous accueillir. Après, ceux qui ont un dossier à la MDPH, ça peut être pris en charge dans ce cadre-là. En revanche, quand ils ont un PAP... Ben, c'est la famille qui effectivement supporte le coût. Après, moi, je ne connais pas les aides qu'il peut y avoir particulièrement pour des familles qui en auraient besoin.
D'accord.
Ça, je ne saurais pas dire.
Ok.
Mais c'est...
Je pense que ça peut être un frein à leur moyen de mettre des choses en place, en fait.
En fait, pendant des années, les troubles 10, ils n'ont pas été pris en compte. On a eu beaucoup, beaucoup d'enfants qui étaient en échec scolaire parce qu'on ne savait pas faire, on n'en parlait pas. Même la dyspraxie, hein, c'est pas connu depuis si longtemps que ça. Hein. Et pourtant, ça a des conséquences qui sont vraiment... S'il y a un trouble pour lequel il faut impérativement des compensations, c'est bien la dyspraxie.
Oui, tout à fait. Bah, j'ai remarqué avec le numérique...
Ben, ça peut être bien et ça peut être moins bien.
Ça dépend. Ça peut être bien pour quelqu'un, mais d'autres pour l'autre. En fait, chaque personne, je pense, est différente. Et voilà. Donc, je pense que tu as répondu à toutes mes questions. Je te remercie en tout cas, Noria, de m'avoir éclairée et d'avoir éclairé aussi pendant cette émission de tous ces éléments. Qui vont être riches, et puis on mettra bien sûr tout ce qu'on a mentionné en tout cas en lien.
Je t'en prie, Cindy.
Voilà. Et ben c'est terminé, Loulou. Voilà. Je te souhaite une bonne journée, Loulou.
Et il ne reçoit pas tout de suite.